pourra comprendre le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, et dans les raisonnements déductifs, il y a encore des divisions. Vous avez le raisonnement, l'attitude réductive. Une méthode réductive, qui n'est pas un raisonnement dans le sens déductif et inductif, qui est autre chose. C'est un peu le vilebrequin. C'est cette chose particulière, vous essayez de saisir le fondement, l'attitude de l'archéologue, un bon archéologue. Je me souviens d'une conversation que j'avais avec le père Deveau, qui était un dominicain de Jérusalem, qui était un excellent archéologue. Bien, la finesse de l'archéologue, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelqu'un qui sait servir du vilebrequin. Ça creuse, ça sort, la terre qui sort. Et alors, si vous êtes un mauvais, vous n'allez pas arriver à vous servir de ça. Un mauvais archéologue, vous massacrez tout. Et celui qui viendra après, il dira, mais tout massacré, on ne peut plus rien faire, alors qu'il aurait pu être attentif aux couches différentes. Là, c'est très important. Il y a quelque chose de particulier comme mode de connaissance, c'est quelque chose de très spécial. Donc, ça, je dirais que c'est toute la connaissance, nous verrons la fois prochaine, la connaissance de la pensée. Nous avions vu l'imagination. La mémoire, pas la même chose, la mémoire et l'imagination, mais c'est dans l'ordre de l'imagination. Puis, la cogitative. La cogitative, on va la mettre avant. L'imagination, ça n'importe quoi. Il faut la mettre avant l'imagination, parce que c'est plus proche de l'intelligence que l'imagination. Donc il faut la mettre avant. C'est juste avant l'imagination. Puis alors, le sens commun au sens d'Aristote et les cinq sensations. Voilà une première structure, Première structure que nous pouvons tous reconnaître, parce que je crois qu'on a tous compris ce que représente ce regard du contemplatif. Une mère qui contemple son enfant. Une fiancée qui contemple son fiancé. C'est un regard. Alors, tout ça nous pouvons à saisir. Alors, vous voyez, c'est très, très particulier. Quand il s'agit de la connaissance, on peut parler de la signification. Quand il s'agit de l'imagination, on peut parler de la représentation. La représentation n'est pas la même chose que la signification. Deux choses différentes. On reverra ça. Quand il s'agit de la cogitative, c'est très difficile de caractériser cette connaissance. Quand il s'agit des sensations, c'est aussi très difficile de sentir. On dit toujours sentir, mais toucher. C'est autre chose que la vision. Et on dit sentir. Alors qu'est-ce que ça représente? On peut presque inventer des mots pour bien comprendre ce type particulier qui est le toucher. On dit le toucher, oui, c'est très vrai, mais le toucher, c'est quelque chose de fondamental. Mais qu'est-ce que ça représente comme connaissance? Comme c'est quelque chose de particulier. Oui. Entendre. C'est une connaissance, entendre. Voir. Alors, il y a ces mots, évidemment. Je dirais chacun de ces mots porte quelque chose de particulier. Il y a un contact particulier avec telle qualité. C'est ça quelque chose de tout à fait spécial, un contact. Oui, il y a un toucher. On le dit pour tous les hommes. Il y a un toucher particulier pour chacune. Vous ne dites pas que c'est une vision, vous dites que c'est un toucher, parce que c'est le temps fondamental. On touche le son en l'entendant. Et on fait plus que le toucher en l'entendant. Le toucher, c'est le sens le plus externe, le plus extérieur. C'est le sens où on distingue le plus qu'il y a quelque chose d'autre que moi. C'est le mur que je touche. Donc, tout cela. Avançons encore pour vous montrer toute la complexité. L'intelligence, ici c'est le domaine de l'intelligence. L'intelligence peut s'allier à l'imaginaire. L'intelligence peut s'allier aux sensations. L'intelligence peut s'allier à la cogitative. Elle peut s'allier à tout ça. L'intelligence peut s'allier alors à un autre domaine, que je ne vais pas parler ici, l'affectivité. Il y a des liens très forts entre l'intelligence et l'amour, ce qu'on appellera une connaissance affective. La connaissance affective a quelque chose de très particulier, et c'est une connaissance. Quand je connais quelqu'un en l'aimant, je le connais autrement que lorsque je le connais, on dit objectivement. Il faudra voir dans quelle mesure c'est vrai. Est-ce que la vraie connaissance objective, ce n'est pas la connaissance que je connais en l'aimant? Parce que je vais beaucoup plus loin quand il s'agit de la personne humaine. Mais quand on connaît bien quelqu'un, on le connaît et qu'on l'aime. Donc, il y a une connaissance intime, personnelle, qui est une connaissance affective. Puis, vous faites votre petite enquête pour savoir comment les autres le regardent. Vous dites, mais je, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils ont regardé ça de l'extérieur. Ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait. Vous voyez, la connaissance externe, dite objective. Alors, gros problème, qu'est-ce que c'est que l'objectivité? Je me souviens d'une conférence qui avait été faite à Fribourg par un journaliste bien connu, qui était à cette époque-là le grand journaliste du monde. Et la conférence était l'objectivité du journaliste. C'était merveilleux. Dommage que je n'avais pas un magnétophone, j'aurais pu entendre maintenant, ça aurait été extraordinaire. L'objectivité du journaliste. Du journaliste, le monde. Venez. Alors, en plus de ça, ça fait quand même quelque chose d'assez particulier. J'y étais, parce que je m'intéressais de voir ce qu'il allait dire. Alors, il avait dit au début, il y avait un public d'étudiants, évidemment. En grosse majorité, il savait bien qui était, ce que c'était que Fribourg au point de vue philosophique. Alors, oui, je vais vous parler de l'objectivité. Vous qui êtes habitué à Saint-Thomas, l'objectivité, c'est... Petit jeu. Pour le journaliste, qu'est-ce que c'est que l'objectivité? C'est son point de vue. Il est objectif parce qu'il donne son point de vue. Ça, j'ai retenu parce qu'il y a des perles qu'on doit retenir toute sa vie, n'est-ce pas? Alors, l'objectivité, c'est son point de vue. Mais c'est très vrai si vous l'indiquez. J'ai regardé cet événement sous tel aspect. On a le droit. Vous avez le droit de le regarder dans une vision aérienne. Et quand vous prenez une vision aérienne, vous mettez une vue aérienne. Alors, on devrait indiquer. Un savant, quand il fait son expérimentation, avec tel ou tel instrument, dans tel ou tel contexte, tel ou tel degré de chaleur, si ça se modifie la chose, il indique. Parce que ça modifie. Et vous, par là, gardez l'objectivité. Tandis que celui qui a le culot monstre de dire l'objectivité, c'est le point de vue sous lequel je regarde quelque chose. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'objectivité est noyée dans la subjectivité. Et vous ne recherchez plus l'objectivité. Vous avez le culot de dire ce que Jean-Jacques Rousseau dit. Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est que l'homme. C'est ça, enfin, c'est exactement la même chose. L'objectivité consiste à être subjectif. Puisque son point de vue, c'est la subjectivité. Et on canonise, c'est le cas de le dire, cette subjectivité pour en faire l'objectivité. C'est ces choses extrêmes, oui, qui font comprendre ce que c'est. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant. Le philosophe aime toujours les choses monstrueuses. Parce que les choses monstrueuses l'aident à découvrir ce qui est plus vrai. Alors, la connaissance affective, elle a son objectivité. Oui, elle a son objectivité. Je ne dis pas que c'est l'objectivité. Elle a son objectivité. Quand j'aime quelqu'un, je le regarde d'une autre manière que si je ne l'aimais pas. Et cet exemple que je vous ai déjà donné, qui m'avait tellement frappé, c'était à Paris quand j'avais le dialogue avec les psychanalystes freudiens, que j'ai fait pendant 15 ans. Hein. C'est eux qui sont venus me chercher et j'ai accepté avec joie. Ça m'intéressait. Alors on avait dit, on irait loyalement jusqu'au bout. Et puis comme c'était des psychanalystes freudiens, et puis nous étions deux philosophes amis, c'était Monsieur de Montléon et puis moi-même, c'est pas très drôle, hein. Il faut en ajouter un troisième, c'est-à-dire on invitera nos amis. Alors quand même, on était 15. Il y avait des amis des psychanalystes qui avaient été psychanalysés, et puis les amis des philosophes non psychanalysés. N'est-ce pas? Alors c'était assez récent, c'était très intéressant. Première session, qui dure 3 heures. Au bout de 3 heures, il est temps de partir. Nos amis s'en vont, nous restons tête à tête avec les psychanalystes. Alors tout de suite, oh, et mon père, un tel, c'est qui? C'est pas de secret. Oh. Un petit coup d'analyse, ça lui ferait du bien. Et puis un autre, c'était comme ça successivement. Enfin, tout le monde y passait. Alors, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'on a été? On avait convenu quoi? On avait convenu que nous inviterions nos amis. Vous les recevez comme des amis. Je ne vous ai pas dit, je vous apporte des clients. Oui. Oui, l'objectivité. C'est très intéressant ces choses-là, parce qu'on voit tout de suite qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes en face de quelqu'un. Est-ce que vous êtes en face d'une personne humaine qui est l'ami d'un ami? Ou bien au contraire, tout de suite, l'aspect subjectif sur lequel vous regardez, ils ont tout à fait raison. On amènerait un client, cette personne a besoin d'un petit coup d'analyse, hein, décanter un peu le vieux vernis. Alors, très bien, il faut avoir l'œil à ça, tout de suite, très bien, je vois. Mais autrement, c'était ce vieux père maître dominicain, qui était un vieux père maître qu'on ne fait plus maintenant. Nos pères maîtres ne sont plus comme ça maintenant. Mais un vieux père maître. J'étais au noviciat et il a raconté comment il avait considéré son métier de père maître. C'était très intéressant. Critique, forcément, père maître, avoir l'œil. Alors, il a dit, oui, quand ils viennent, je les laisse parler. Puis, je les invite au réfectoire. On invite au réfectoire, c'est pour manger, n'est-ce pas? Puis, c'était la table des invités, était en plein milieu. Et donc, lui, en tant que père maître, était juste en face d'eux. Je les regarde. Je vois tout de suite s'ils ont la vocation ou pas. Vous voyez? Alors, c'est terrible, parce que à ce moment-là, je ne pouvais pas lui dire, parce que je ne comprenais pas encore. Maintenant, je lui aurais dit, mais écoutez, c'est pas bien. Vous m'invitez au réfectoire, c'est amical. Puis vous le prenez. En ayant l'œil de permettre, non. Est-ce qu'il est capable d'être un dominicain ou pas un dominicain? Alors je le regarde dans l'activité de la nutrition, se nourrir. Il y a des tas de choses qui se dévoilent, là. Vous savez bien, on voit tout de suite, hein. On voit tout de suite ça. Alors, c'est très bien si vous l'analysez. Il faisait la critique à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on a le droit? Oui, c'est ça qui fait que le respect à l'égard d'une personne, ça va très loin, ça. Je ne sais pas jusqu'où il avait le droit de faire ça. Du reste, il l'a reconnu après. Il a dit, j'aurais recommencé, je ne sais pas si je ferais ça. Pas uniquement à cause de ça, d'autres choses. Il y avait d'autres choses qui étaient vraiment le permettre du temps passé. Il y en a qui ne se fait plus maintenant. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ça ne serait plus supportable au sens propre. Alors, vous voyez que là, nous voyons que la connaissance affective va lier l'objectivité et la subjectivité d'une façon tout à fait particulière. La connaissance intellectuelle liée à l'imagination va donner naissance, selon les anciens, Aristote, saint Thomas. Je dis ça parce que ça demanderait des tas de nuances. À la connaissance mathématique. Le développement mathématique dans notre Occident, c'est le premier développement scientifique. J'y reviendrai parce que je crois ça très important. La fameuse parole d'Aristote. Hein. Les mathématiques se sont développées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Alors ça, c'était les mathématiques. C'est quelque chose de très, très particulier. C'est l'intelligence liée à une imagination très purifiée, le divisible. Les relations dans le divisible. Alors, le domaine mathématique, peu importe s'il faudrait rectifier cette chose-là, mais c'est sûr que la connaissance mathématique représente un type de connaissance d'une noblesse très particulière. Quelque chose de particulier, et particulièrement l'intelligence humaine. Alors, il y a le domaine mathématique. Le domaine mathématique a permis, il faut bien le voir, la naissance d'une quantité d'autres sciences à partir des mathématiques. C'est très curieux. La philosophie n'a pas engendré des quantités de sciences, tandis que les mathématiques, oui. Alors, dans l'Antiquité, il y a eu les mathématiques, puis il y a eu la philosophie. Et au sommet de la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique, avec, si vous voulez, le point de vue de la sagesse. Alors la sagesse, c'est la sagesse et le contemplation. Alors vous devez développer, donner, à titre d'extension, toutes les connaissances modernes, toutes les sciences modernes. C'est un développement de la connaissance humaine. C'est immense. Alors, je ne fais pas la critique des sciences, je fais la critique de ma connaissance philosophique en premier lieu. Et donc, c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est cet aspect de structure propre de l'intelligence, du moins, de l'intelligence et de l'imagination, et de la cogitative, et du sens commun, et des sensations, pour comprendre que l'intelligence humaine se développe dans une extension extraordinaire. Et nous sommes arrivés peut-être dans notre monde d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout où est arrivée l'extension de la connaissance égyptienne, ça a sûrement été très loin. Les pyramides représentent sûrement une harmonie de connaissances très étonnante. Ce qui est sûr, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, grâce du reste à des instruments particuliers, pas seulement le prolongement de la main, mais le prolongement de la raison, nos connaissances intellectuelles et scientifiques ont progressé d'une façon invraisemblable. C'était un de mes amis biologistes qui me disait il y a quelques années, moins 5-6 ans. Depuis 6 ans, alors majorez ça, parce que je crois qu'aujourd'hui ça va encore plus vite. Il me disait, depuis 6 ans, le capital des conclusions intellectuelles a doublé. Avant, il fallait 150 ans, et avant. Et c'est vrai, c'est l'accumulation prodigieuse qui pose un problème, du reste. Ça pose un très gros problème. Parce que c'est l'accumulation de ces connaissances scientifiques qui font que les connaissances scientifiques se particularisent de plus en plus. Aujourd'hui, pour pouvoir être génial dans un domaine, il faut commencer très jeune, se particulariser. Si on se particularise, on n'a plus le propre de la connaissance intellectuelle, qui, comme nous le verrons la fois prochaine, est universelle. On n'a plus le regard de sagesse, qui est de monter très haut. C'est l'extension. On développe une extension toujours plus grande. Alors, vous voyez, c'est là les problèmes qui montrent que nous sommes arrivés, j'allais presque dire, hein, comprenez bien, à une situation limite du progrès de l'intelligence. On arrive à une situation limite. Est-ce que l'intelligence humaine peut encore vraiment assimiler tout? Ou est-ce qu'elle accumule? Vous comprenez que si elle n'assimile pas, elle n'est pas organique. L'accumulation n'est pas organique. L'accumulation, c'est l'accumulation. Ce n'est pas un vivant. Un vivant n'accumule pas. Un vivant, il rejette l'accumulation. Il en a par-dessus la tête, l'accumulation. Tandis qu'un vivant, lui, assimile. Et c'est là où on touche. Et c'est ça, on reviendra là-dessus, parce que je crois que c'est un des problèmes très importants. Nous faisons de la critique pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, pour comprendre un tout petit peu la différence entre l'ordinateur et l'intelligence, pour comprendre ce qu'on dit, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle. Alors, voyez, la dernière chose que je n'ai pas notée, c'est la logique. La logique qui est née après les mathématiques, qui est née après la philosophie, la logique, les méthodes, ça devient après. Les mathématiques ont leur propre logique à eux, mais n'ont pas extrait une logique séparée. La logique, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas la critique, c'est autre chose. C'est encore un art, c'est un art. Il y a tout le développement de l'art, qui est l'intelligence liée à l'imagination par l'inspiration. Il faudra comprendre qu'est-ce que c'est que cette connaissance de l'inspiration. J'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler, mais j'y reviendrai, hein, parce qu'on parlera de la connaissance poétique. À ce moment-là, on parlera de l'inspiration. Et puis, la logique. Alors, vous avez des grands têtes de file. Ces grandes têtes de file, vous voyez, c'est les mathématiques, la philosophie, la logique, la pensée poétique, la pensée affective. Et puis le développement des mathématiques, alors, qui va très très loin dans toutes les applications et dans toutes les sciences où il y a une application. Alors la fois prochaine, le 9 décembre, donc, nous regarderons la connaissance intellectuelle et nous essaierons de pénétrer dans ce qu'il y a de tout à fait caractéristique dans cette connaissance.